Française, Français, Belge, Belge, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour.
Ceci est une émission de radio.
Par Jupiter, nom de Zeus.
Regarde, Jupiter.
Ah a-t-il l'air d'un dieu?
Oh, d'un dieu inférieur.
Oui. Un dieu inférieur.
Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. Il faut être un romain de cette époque pour mettre en question la place de Jupiter. À l'époque où se met en ordre la mythologie grecque avec Homère, Hésiode, 8e, 7e siècle avant notre ère, la primauté de Zeus était incontestable. Zeus avait relégué à l'arrière-plan les divinités anciennes, il avait littéralement recréé le monde. Depuis le mont Olympe, il était le garant de l'ordre cosmique. Sur Terre, il l'était de l'ordre social et il était présent sous la Terre. C'était aussi un dieu tonien. 50 épithètes n'ont jamais suffi à le dire tout entier. Il est l'opulent et le serpent, celui qui assemble les nuées et se réjouit de la foudre, etc., etc. Il n'est pas d'ailleurs un de ces caractères de Zeus qui n'a eu son équivalent à l'est de la Méditerranée, dans les civilisations pionnières de Crète ou du Proche-Orient. À l'ouest de la Méditerranée, à Rome, il sera Jupiter. Les Grecs en sont confortés dans leur certitude que les autres peuples croient au même dieu qu'eux, mais sous d'autres noms. Et tant de siècles après, que reste-t-il du premier des Olympiens ? À en croire les médias, son culte antique déteint encore sur notre culture politique. Les gazettes soutiennent qu'au Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian travaillerait devant une tapisserie qui représente les amours de Jupiter. Et sur France Inter, on l'a dit, la classe de Madame Charline vient de se mettre sous sa surveillance. Mais en même temps, si j'ose dire, il faut savoir qu'au plus haut de sa force, Jupiter n'était jamais assuré d'avoir le dernier mot.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec non pas Madame Charline, comme annoncé par Sébastien, mais Madame Catherine Clément, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes, je ne sais pas comment dire, la marraine, ça ne va pas vous plaire.
Bah c'est ça qu'on appelle, on dit marraine.
L'ambassadrice d'une... Non, l'ambassadrice d'une collection que Le Monde publie dorénavant, chaque mercredi. Et le numéro de ce mercredi, c'est Hercule. Et le numéro de la semaine passée, c'était... Zeus. Alors vous expliquez dans les papiers que vous avez déjà faits sur cette collection que, enfant, vous attendiez une sorte de protection indirecte des dieux de la mythologie gréco-romaine.
Ben je ne l'ai pas fait exprès. J'étais sur le bord de la Loire, dans un petit village, dans lequel je vis toujours pendant les vacances. Et en 44, les B-17... et non pas les B-52 comme je dis quelquefois, les B-17 étaient obligés de déverser leurs bombes sur la Loire, dans la Loire, avant de repartir. Mais ils bombardaient Tours, ils bombardaient Le Mans, ils bombardaient les nœuds ferroviaires. Et ils étaient obligés de donc... Et puis de temps en temps, ils se trompaient de cible. C'est-à-dire qu'ils ne bombardaient pas la Loire, ils ne laissaient pas tomber les bombes dans la Loire, mais sur les maisons. Plusieurs bombes sont tombées sur la route près de moi. Un de mes petits camarades de jeu a eu une jambe en moins. Enfin bon, c'était quand même quelque chose de très très bousculant, très tourneboulant. D'autant plus que j'avais déjà vu les ponts de la Loire sauter, toute petite, alors presque encore bébé. Donc j'ai vécu dans un univers, sonore de la guerre, belliqueux.
Et vous lisiez des livres sur la mythologie ?
Pas du tout. Je lisais pas des livres sur la mythologie. On m'a retrouvé à 4-5 ans, en train de lire le livre illustré par John Flaxman, le même.
Le même qu'on retrouve dans la collection du Monde.
Absolument, un énorme bouquin, mais qui pesait 2 kilos. Hein. Et on m'a retrouvé en train de lire ça. Et expérimentation faite, je savais lire, et je n'avais pas appris. C'est un phénomène rare, mais qui arrive, c'est une sorte de protection contre l'angoisse. Elle est bénie, cette protection-là.
La bénédiction
elle m'a été très utile.
Des dieux de l'Olympe. Mais en même temps, dans la culture monothéiste qui nous caractérise, les dieux, soutenez-vous, ont été mis entre parenthèses. Ils ont même été mis quasiment en résidence surveillée. Dans votre dictionnaire des dieux et des déesses qui a précédé cette collection, c'est chez Plon, vous consacrez un article au roman de Jean Rey, Malpertuis. Oui. Les dieux ont été capturés sur une île grecque.
Ils sont une sorte de guenilles, sur les, de guenilles transparentes, un peu mollusques.
On les a cousus dans des peaux humaines et on les a transportés. Où ça? Bah, chez les Belges, déjà. Enfin, précisément, à Malpertuis, une maison des Flandres.
Malpertuis, ça signifie le mauvais passage. Dans les légendes flamandes, c'était le repère du renard. Le renard, bien sûr, c'est le diable.
Qu'est-ce que c'est que ces mystères?
Mais rien, Yann, je ne peux rien te dire, ne me force pas. Il vaut mieux garder ton innocence le plus longtemps possible.
Mon innocence. S'il y a des secrets à connaître, il n'y a pas de raison que vous me les cachiez. J'en ai assez. Assez, monsieur l'abbé. Je n'ai pas besoin de vous. Je suis bien assez grand pour trouver les secrets de Malpertuis tout seul.
Il n'est pas en mon pouvoir de t'arrêter, Yann. Mais prends garde. Prends garde. Malpertuis cache bien des mystères. Derrière des portes cachées derrière d'autres portes. Au bout de couloirs enfouis. Et à la fin, qu'espères-tu trouver ?
Ben, les dieux consignés, c'est une adaptation par Harry Kummel en 1971 du roman de Jean Rey. Il ne faut pas chercher Zeus au milieu de ces dieux cachés parce que lui a échappé à la capture.
Monsieur Isengard, comme il est appelé dans le roman, oui, il s'est mis à côté pour surveiller sa petite famille, mais il n'y a pas toute la petite famille des dieux, il n'y en a que ça, 4 ou 5. Hein. C'est pas l'intégralité des dieux, mais le père protecteur se met dans la maison d'à côté, il vient faire des visites assez fréquemment pour vérifier si tout va bien. Tout ne va pas bien d'ailleurs. Les peaux des dieux dans lesquelles ils sont cousus, les peaux éclatent et les vrais dieux réapparaissent et ils font des dégâts, bien entendu. Mais ça dit quelque chose. Les dieux ont été capturés, ils sont limités, mais ils sont limités à l'origine. C'est-à-dire que Zeus n'est pas tout puissant. Et non, bien sûr que non, il a des limites très précises. Et par exemple, ce qui me touche beaucoup, moi, c'est ce que j'aime beaucoup de Zeus, c'est qu'il est lié par le serment, par le Styx, qu'il a d'ailleurs établi lui-même.
Ah, par Jupiter et par le Styx.
Non, par le Styx. Quand un dieu, quel qu'il soit, fait un serment par le Styx et qu'il le parjure, il est mis au coin, il n'y a pas d'autre mot, il perd sa divinité, il n'est plus nourri de nectar et d'ambroisie, et donc il est presque mort, il est pendant 10 ans.
Non, parce que je recommandais à l'équipe de Madame Charline d'utiliser cette formule par le Styx, et il me disait c'est ésotérique. Mais on l'a très bien compris à vous entendre.
C'est pas du tout ésotérique. Et il se fait piéger comme ça, une fois... De cette façon-là.
Alors, vous parlez des origines et de la multitude des dieux. On ne va pas raconter tous les combats que Zeus a accomplis, d'abord pour naître, survivre et pour parvenir au pouvoir, mais juste pour peindre l'atmosphère. Jean-Pierre Vernant, que vous aimez comme chacun d'entre nous.
Les gouttes de sang sont tombées sur la terre. Et de ces gouttes de sang, avec le cours du temps, parce que maintenant, ça y est, le temps s'est mis à courir, s'est dégagé, naissent un certain nombre d'êtres qui sont en gros les puissances de vengeance et de guerre, les puissances qui vont présider au cours du temps au fait que ceux qui ont commis des crimes vont les payer et au fait que les gens vont se déchirer les uns les autres.
Je ne sais pas si je fais bien de vous faire remonter à l'origine, parce que je sens que le récit va être ésotérique.
Le récit de ces gouttes de sang ?
Non, mais votre récit du rapport entre Zeus et les origines.
Non, pas tant que ça. Il est le petit-fils du premier, en gros. Le premier, c'est Ouranos, qui est le ciel. Dont la parèdre et la partenaire sexuelle est Gaïa, la terre. Ouranos l'occupe tellement, il baisse tout le temps. Voilà, c'est un dieu qui baisse tout le temps. Et il empêche même Gaïa d'accoucher. La terre est surchargée, elle n'en peut plus. La terre est surchargée, ça c'est un thème qu'on retrouve dans le Mahabharata en Inde. Et donc pour se libérer Gaïa, elle confie à l'un de ses enfants une serpe très aiguisée. Non. Oui, c'est ça, une serpe très, très aiguisée, et elle le convie, alors dans le livre que je marraine, si vous voulez, La Gaïa prend une forme humaine très délicieuse, elle l'attire par toutes sortes de procédés. En fait, c'est beaucoup plus brutal que ça. C'est comme d'habitude, il est sur elle, un des fils s'en sort et coupe les parties génitales d'Uranos, qui donc il le castre.
C'est ça que vous aimez bien dans la généalogie, vous, c'est la crudité non, du langage, j'aime... la crudité des situations.
Oui, la crudité des situations, oui, mais enfin quoi, c'est bon.
Bon, d'accord. Alors oui. Continuez, la génération suivante.
La génération, bah non, mais d'abord de ces gouttes de sang, on est Aphrodite quand même. Des parties génitales d'Uranos naissent Aphrodite, ça n'est quand même pas rien. Alors ensuite, Cronos, qui est le roi suivant, a comme épouse Rhea, qui est la vie. Et un peu la même chose, Cronos se méfiant terriblement de tous ses enfants, les avale les uns après les autres. Sauf un, qui est Zeus. Parce que Rhea va lui tendre l'enfant qu'il avale, hein, il ne mâche pas, il ne déchire pas la chair. Et il avale une pierre qu'il croit être son enfant.
Ah, une pierre emmaillotée dans un ange.
Une pierre emmaillotée, absolument. Une petite pierre emmaillotée qui est le bébé.
Et comme, donc Zeus est vivant.
Donc Zeus est vivant, il est bébé, il grandit, et à la fin des fins, il renverse Cronos. Voilà, c'est pas si compliqué que ça.
Et il renverse Cronos comment? Avec l'aide de quelqu'un? Métis?
C'est une guerre. Oui, Métis. Mais Métis est une de ses tantes. Métis est une de ses tantes, et il a une façon... Alors ça, c'est très compliqué, parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Moi, je préfère celle de Vernon. Il avale Métis.
Zeus avale Métis.
Oui, écoutez, tel père, tel fils. Tel père, tel fils, c'est un avaleur. Donc il lui fait l'amour, et en lui faisant l'amour, il l'avale. Et donc il a à l'intérieur de lui la prudence, la sagesse, qui lui permet de gagner cette guerre des titans qui va le consacrer roi des dieux. Donc c'est pas si compliqué que ça. Il faut concevoir trois générations de dieux. C'est pas... Voilà.
Trois générations qui peuvent durer, ainsi que la guerre qui va suivre, des myriades d'années.
Ça ne se comptabilise pas, cher. Dans le monde des dieux, on ne tient pas ces comptes-là. Ça n'existe pas. C'est peut-être ça qui me plaît aussi.
Mais vous parlez de la collection du monde, dont l'auteur du livre consacré à Zeus est un catalan.
Est un catalan. C'est écrit en langue espagnole, cela dit. Hein.
Ah. Il n'y a pas des variantes qu'il aurait fallu introduire plus précisément en disant à ce moment-là, à cet endroit-là, vous avez une variante.
Est-ce qu'Homère fait des variantes? Non. Quand on fait un récit, on tient le récit. C'est l'historien de l'Antiquité qui regarde Homère et qui voit qu'il y a plusieurs textes sources d'inspiration ou plusieurs versions d'Homère. Mais ce n'est pas Homère lui-même qui fait des variantes. Le récit, c'est le récit. On ne peut pas dire dans une autre version... Ceci, cela, ça coupe la lecture. Donc ça, je conçois très bien que ça soit. Moi, j'ai fait pareil. Hein.
Oui, je sais, c'est pour ça que vous êtes la marraine.
Oui, oui, moi, je choisis une version et je m'y tiens.
Et le travail d'interprétation, comment fait-il ?
C'est pas le même métier. Celui du conteur ne supporte pas la variation. Ça, imaginez, dans le Chaperon Rouge, qu'on vous dise, ah ben, c'est pas forcément le loup, c'est peut-être un homme, c'est peut-être... Bon, ça ne tient plus.
Mais on aimerait savoir où est né Zeus. Parce que il y a aussi du travail d'archéologie en même temps que le travail d'interprétation des textes. Et ce travail d'archéologie dit, tiens, en Crète, il y a un site. En Crète, il y en a un autre.
Tout ce que je sais de la naissance de Zeus, ou plutôt de sa jeunesse, sa petite enfance, ça n'est pas son lieu de naissance. C'est que pour que ses cris et ses pleurs n'atteignent pas le terrible Cronos, qui l'avalerait tout vivant, les Corybantes se sont mis en place. Et ça, c'est une invention.
Pour le dissimuler.
Oui, ce sont des arts martiaux. Enfin, ce sont des guerriers qui pratiquent les arts martiaux à grand renfort de boucliers cliquetants et d'épées qui se cognent. Et ça fait autant de bruit que les braillements de Zeus.
Et l'Olympe, qu'au bout de sa grande guerre de 10 ans, il gagne et réorganise. On aimerait savoir où c'est.
C'est en Grèce, écoutez.
Oui, mais il y a aussi plusieurs interprétations possibles.
Oui, mais ça, c'est pas mon sujet.
Ah, d'accord.
C'est le sujet du récitant ou du conteur n'est pas celui de l'interprète.
Ah oui, c'est pas la marge de l'histoire. Dans la marge de l'histoire, on dirait, il y a des temples de Zeus, c'est un culte panhellénique, et puis qui dépasse l'époque de l'Antiquité.
Dans la marge de l'histoire, le curieux, c'est que vous parliez d'un dieu.
Ah oui? Bon, ça nous arrive assez souvent, vous nous le reprochez. Il y a des temples partout, il y a même des temples qui durent très longtemps dans l'histoire. Alors, on vous sait spécialiste de l'opéra, mais aussi peut-être un peu d'Offenbach. Vous tolérerez le chœur de Jupin au début de La Belle Hélène?
Et comment?
Vous savez par cœur, non?
Non,
vers
je ne suis pas sûr.
Vers tes autels, nous accourons joyeux. À toi nos voeux. Nous voici tous à tes genoux. Dieu, souverain des dieux, dont la barbe... S'il a de la barbe, Zeus.
Oui.
Et d'or.
Vers tes hôtels, je parle dans un courant joyeux. Vers tes hôtels.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Par Jupiter, nom de Zeus. Ça, c'est notre rapport au travail commun de France Inter. Nom de Zeus. Nous parlons de Zeus. Zeus a fait l'objet du premier numéro de la collection que débute
Surtout
le monde.
N'y voir aucune allusion politique, naturellement, Jean. Hein
c'est une collection que marraine, on vient de l'entendre de nouveau, Catherine Clément, notre invitée. Alors, il vous plaît Zeus parce que il est capable d'engendrer d'un peu toutes les façons, et vous trouvez ça furieusement moderne, parce que ça annonce la gestation par autrui, la procréation médicale assistée, que sais-je.
La gestation pour autrui, surtout, et c'est surtout le premier roman, enfin le premier personnage masculin, enceint.
Il est enceint.
Il est enceint de Dionysos. Mais là, c'est toute une histoire, peut-être un peu plus compliquée que la généalogie des dieux. Et c'est là où on trouve le serment par le Styx. Il est amoureux d'une mortelle, et pour la première fois, il ne se cache pas. Il est vraiment lui. Il est Zeus, le roi des dieux. Héra, l'épouse légitime, est très jalouse, s'infiltre dans la proximité de la jeune Sémélée, qui est l'amante de Zeus, et lui suggère de demander que son amant se présente dans toute sa gloire. Ça, c'est très important. Et elle lui fait jurer par le Styx qu'il fera ce qu'elle veut. Et puis elle dit « je veux ça ». Et Zeus est très embêté parce que dans toute sa gloire, ça veut dire avec son foudre, c'est-à-dire l'instrument qui brûle tout et qui dévaste tout. Donc il sait d'avance que si il se montre dans toute sa gloire, il va détruire cette jeune femme qui est enceinte. Et quand même, le roi des dieux peut pas se parjurer parce qu'il perdrait sa chair, il serait puni, il serait mis au coin pour 10 ans, etc. Donc il se présente dans toute sa gloire, elle est carbonisée, il se précipite, il extrait le fœtus, il le coud dans sa cuisse. D'où l'expression la cuisse de Jupiter.
Très bien. Dites-moi, il ferait mieux en effet de se présenter travesti, déguisé et non pas dans toute sa gloire, comme dans cette histoire assez unique. Vous aimez aussi beaucoup la capacité de se travestir de Zeus qui annonce les transformations modernes de genre. On vous choisit un exemple. Je crois que c'est celui que vous préférez, c'est le meilleur. Danaé, non? Non.
C'est
pas mal raconté et brièvement par Jim Henson, c'est le créateur du Muppet Show. Donc, Danaé est la fille d'un roi qu'elle a mécontenté. Le père l'a maudit, l'enferme.
Père ! Père !
Il n'y a rien, il n'y aura plus jamais rien pour nous deux. Ni fils, ni rire, ni joie. Rien que le silence, le deuil et tout ce que nous avons manqué.
Pauvre jeune fille.
Oh oui, c'était terrible. Enfermée à jamais dans une chambre aux parois de bronze, d'où s'échapper n'était pas envisageable. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien que l'obscurité, le silence et un très timide rayon de soleil dans le coin de la cellule. Danaé trouva un réel espoir dans ce filet de lumière divine. Elle le contemplait, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle était allongée, cette lumière se transforma en une pluie d'or véritable, ruisselant sur son corps.
Et alors, c'était quoi ?
C'était Zeus, le roi suprême de tous les dieux.
Bien sûr, Zeus sous la forme du rayon d'or.
Mais de rayon d'or, ça va. Ce que je n'aime pas dans les présentations de Danaé, c'est quand le peintre, l'artiste qui représente la scène, fait couler des pièces d'or. Ça, c'est ridicule. Imaginez la pièce d'or à introduire dans le sexe de la femme. C'est pas évident, c'est froid. Ça me paraît pas très bien.
Mais elles sont innombrables, les capacités de travestissement de Zeus.
Innombrables, non, il y a une petite cinquantaine.
Une petite cinquantaine, oui. Comme autant d'épithètes, Zeus.
Mais tous les dieux ont cette capacité quand même. Hein. Ils sont tous transformistes.
Alors, vous dites que c'est furieusement moderne, ça aussi. D'ailleurs, vous auriez aimé, mais c'est pas très facile à passer parce que le son est souvent inaudible. Les comédiens n'articulent pas à la façon de ceux du Muppet Show, vous avez beaucoup aimé les métamorphoses mises en scène par Christophe Honoré.
Ah oui.
Là, Jupiter, Zeus, c'est un chauffeur de camion d'aujourd'hui.
Il est le camion.
Ah, il est le camion.
Alors, attention, il faut bien préciser, ça n'est pas une fourgonnette blanche, ça n'est pas un camion blanc, c'est un camion rouge. Il faut pas, vraiment pas confondre les camions et camions. Et il est le camion. C'est-à-dire, quand il a aperçu la belle qu'il veut conquérir, il fait comme aurait fait le taureau. Il a des mouvements animaux avec son camion. Il tourne autour, il fait des freinages, il fait des bruits avec sa voiture. Il mugit, c'est un camion qui mugit. Et je trouve extraordinaire d'avoir remplacé le taureau par l'être lui-même que forme le conducteur du camion et son camion.
Mais ça préoccupe beaucoup Christophe Honoré en général dans son cinéma. Il pourrait y avoir des unions homosexuelles de Jupiter aussi bien que des unions hétérosexuelles. Il y en a beaucoup.
Oui, mais chez tous les dieux. Chez absolument tous les dieux, puisque l'homosexualité n'était pas du tout pénalisée, c'était une société tout à fait libre. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a des amours homosexuels de tous les côtés.
Et la transformation pour rejoindre Ganymède?
Alors oui, mais ça c'est juste un transformisme de plus. Zeus se transforme en aigle, ce qui n'est pas sympathique quand même, parce qu'un aigle s'assaisit avec ses serres et il enlève le jeune Ganymède, qui est un charmant jeune homme, dont il est tombé amoureux. Et alors, il y a deux façons de se représenter. Ou bien Ganymède s'accroche aux cerfs, ça va, ou bien les cerfs sont plantés dans le dos de Ganymède, ce qui, pour le coup, n'est pas agréable. Moi, je suis très, très attentive à ce qui peut se passer du côté des sensations.
Et vous avez de la sympathie pour certains et moins de sympathie pour d'autres. Alors, vous n'avez pas beaucoup Apollon, vous préférez Dionysos, parce que Dionysos fait échapper les femmes à leurs devoirs. Et qu'est-ce que vous pensez des rats ? La femme légitime, celle qui exerce la conjugalité, et chaque fois qu'il y a une métamorphose de Zeus qui va donner naissance à un enfant, elle intervient pour que les choses reviennent dans l'ordre.
Elle est rigolote, Héra. Il y a deux façons de la voir. Ou bien on la considère comme l'emmerdeuse, l'épouse légitime, celle qui toujours met des barrières et qui la jalouse, si vous voulez. Ou bien, c'est celle que je préfère, celle qui a de l'inventivité. Pour le tout, elle, quand elle veut se venger, elle va dans le jardin de Flore, elle cueille Flore, qui est une déesse qui lui ouvre la porte, et elle va effleurer, c'est même pas cueillir, elle va effleurer une fleur qui l'a fait tomber enceinte. Et elle se fait des enfants toute seule. Elle s'en fait quand même une vingtaine en tout. Pas avec le jardin de Flore. Il y a une façon d'engendrer encore plus belle. Elle tape sur la terre, lentement, avec sa main. La terre, c'est Gaïa, c'est sa grand-mère. Et elle appelle sa grand-mère à l'aide. Et sa grand-mère finit par lui sortir une main. Et dans la main de Gaïa, il y a deux œufs couverts du sperme d'Uranos. On se demande comment, puisque Uranos est châtré, mais enfin, c'est ça qu'il y a. Et ça, ça donne beaucoup, beaucoup de rejetons. Moi, je trouve ça très amusant.
On se demande comment. Alors, à mesure que, après la tradition mythologique, sont venues les traditions théologiques, les traditions politiques, je parle du monde grec et encore plus du monde romain, la question s'est posée de l'omnipotence de Zeus, et puis aussi de la capacité de tous ces dieux à être des modèles ou des conducteurs pour les hommes.
Le temps menace. C'est vrai que nous vivons une saison incertaine. Les dieux là-haut doivent se quereller et se réconcilier sans cesse.
Tu le crois vraiment? Sais-tu ce que me disait en venant ce charmant petit sot? À son avis, la pluie, c'est Jupiter qui pisse.
Distinguons bien deux choses. Il croit à leurs dieux. Par exemple, il croit à Jupiter, Zeus. Ça ne veut pas dire qu'il croit de la même manière aux nombreux amours de ces dieux. Mais enfin, il croit aux dieux, il leur rend un culte. La religion consiste uniquement, non pas tellement à avoir des sentiments de dévotion, une vie spirituelle, mais qu'à exécuter ponctuellement ce qu'on doit faire, les rites. Un peu comme on ne demanderait pas à quelqu'un d'avoir des sentiments fervents pour son patron, mais de faire son boulot. Mais enfin, il demeure qu'ils ont des sentiments pour les dieux, moins ardents que la dévotion chrétienne, mais Aristote a tout dit en trois mots, nous aimons les dieux comme notre père et notre mère.
C'est la réponse que Paul Venn, qu'on vient d'entendre, donne quand on lui répète la question. Mais ils y croyaient, les Grecs, et même aussi les Romains?
C'est curieux comme question. Bien sûr qu'ils y croyaient. Je peux partir en Inde deux petites secondes? En Inde, c'est très simple. C'est même, les dieux sont tout à fait vivants en Inde. Donc on peut avoir une idée de ce que c'est que le culte polythéiste. Croire en un dieu, c'est d'abord le choisir. Donc on choisit machin, enfin Ganesh ou peu importe le dieu. Et le matin, en allant à son travail, on s'arrête au temple. On fait teinter la clochette, on se fait mettre une petite pincée de poudre par le prêtre qui est là, et c'est tout. Voilà, le culte, c'est ça. Ou bien on fait ça à la maison devant l'équivalent des dieux là. Ça prend une minute à tout casser. Donc le culte, c'est quelque chose de très familier et il y a des endroits pour ça. Et puis il y a de grandes festivités. Exactement comme les festivités de l'Assomption, ça ressemble beaucoup quand même. Hein. La Vierge Marie est une déesse. Pour moi, c'est une divinité. C'est la divinité femme du culte chrétien. Enfin bon, ça donne une grande fête et aussi des neuvaines qu'on fait avec les chapelets. Donc il y a un culte quotidien qui est très facile. On a la même chose. Et puis il y a des grandes festivités, ça on les a toujours. Enfin, les grands cultes des dieux monothéistes les ont toujours.
Alors les fêtes, et puis je retiens votre expression, dernière question, ça prend une minute à tout casser.
Le culte quotidien.
Oui, mais justement, c'est pour ça que la mythologie gréco-romaine ou toutes les mythologies qui vont être présentées dans la collection du Monde et que vous connaissez bien, c'est séduisant pour l'époque moderne où, comment dit Régis Debray en grognant dans sa moustache dans le Monde d'aujourd'hui...
Il n'a plus de moustache.
Il n'a plus de moustache, bon, mais il grogne toujours. Les religions modernes, ça doit être des petites religions portatives légères.
Oui, mais il est très pessimiste, il voit pas les choses, puis il connaît pas l'Inde très bien, donc connaît pas les polythéismes. Il y a quand même la moitié du monde qui est polythéiste. Régis ne connaît pas du tout cette partie-là, où les dieux ont la même profondeur qu'ils avaient au moment des Grecs. Donc c'est une méconnaissance de la gravité des dieux.
Mais enfin, Zeus connaissait pas beaucoup l'Inde non plus, donc on recommande...
Ça, qu'est-ce que vous en savez?
C'est Dionysos, oui, mais Zeus, on n'a pas le temps de répondre à la question. Réponse peut-être dans la collection Mythologie, Marcos Raen Sanchez, prononçais-je bien le catalan, est l'auteur de ce premier volume. Qu'est-ce qu'il y a au programme de Mathieu Vidard?
Eh bien, nous sommes aussi sans moustache dans ce studio et nous allons parler de la santé mentale sur les applications des smartphones, Jean.
Merci à Audrey Ripouille, la réalisatrice de cette émission, Frédéric Martin, Franck Olivard l'ont préparé et à la technique, Loïc Frapsos.